Accès refusé. Accès refusé. Accès validé.
Bonjour les auditeurs et auditrices, ça y est, le deuxième épisode d'Accès Validé est là, et pour ceux qui débarquent, ben enchanté, moi c'est Seb, et pour m'accompagner au micro, eh ben Gwen.
Salut Seb, salut tout le monde.
Accès Validé, c'est une nouvelle émission sur Radio Zaï qui aborde le sujet du handicap.
Et aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler d'accessibilité dans l'espace public. Et pour ce faire, on s'est mis en mode reportage.
Oui, on était en immersion dans le centre-ville aixois.
Mais avant ça, nous ferons un point de définition sur notre sujet.
Évidemment.
J'espère que vous êtes prêts. C'est parti.
Accès refusé.
Bon, déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un espace public ?
Alors, sur le plan de l'urbanisme, l'espace public, c'est un ensemble de lieux, comme les rues, certaines places, même la mairie, ou des lieux privés, comme le cinéma, des cafés ou des centres commerciaux. Ils sont souvent ouverts au passage ou à la fréquentation de tous, par opposition à un domicile privé, par exemple.
Ensuite, pour l'accessibilité, on peut la définir comme le principe selon lequel tous les individus, indépendamment de leur capacité physique, intellectuelle ou mentale, doivent avoir le même accès à tous les aspects de la société.
Et on associe souvent l'accessibilité à des bâtiments, même à l'espace public, mais elle couvre un champ bien plus large, avec notamment l'accès à l'information, aux services et aux activités permettant à chacun de participer pleinement à la vie quotidienne, sociale, culturelle et professionnelle.
D'ailleurs, la définition de l'accessibilité fait aussi lien avec les politiques mises en place, comme la loi du 11 février 2005.
Et cette loi, dite loi du handicap, elle prend désormais en compte 4 familles de handicap, le handicap moteur, sensoriel, cognitif, psychique, ainsi que les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Elle pose aussi le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
C'est fou parce que j'ai l'impression que ça découle vraiment, que c'est la logique, la chose normale.
Oui.
Donc avant cette loi, c'était pas dans le droit, quoi. Et donc la politique du handicap met l'accent sur 4 grandes thématiques. En premier, les droits à la compensation du handicap. En deuxième, l'obligation d'accessibilité, ensuite l'école pour tous et enfin l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et pour ce qui est de l'obligation d'accessibilité, il est prévu une obligation d'adaptation des conditions d'accès des personnes à leur environnement. En gros, le cadre bâti, les transports publics, la voirie et l'espace public.
Mais 21 ans plus tard, force est de constater que la France a encore du retard sur la question. Le 10 février 2025, le collectif Les Dévalideuses, qui se définit comme un collectif anti-validiste féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap, organisait une contre-manifestation place de la République à Paris pour proposer un autre discours sur l'accessibilité ainsi que l'inclusion non satisfaite.
Face à l'invisibilisation des femmes handicapées dans le féminisme, un collectif nommé les Dévalideuses, au croisement des luttes contre le validisme et le sexisme, se bat pour porter la parole des femmes en situation de handicap.
Le validisme, en fait, c'est un système d'oppression, au même titre que, par exemple, le sexisme ou le racisme. Une vie valide serait supérieure à une vie de personne handy et ou malade. Pour nous, l'enjeu, c'est de lutter contre tout ce système de validisme donc, qui génère à la fois des stéréotypes, des préjugés et des discriminations.
Notre principal problème ne sont pas nos symptômes. Notre principal problème, c'est le validisme. C'est du harcèlement, les violences dans l'espace médical, mais aussi les violences dans l'espace social, dans l'espace professionnel, même les violences avec les personnes qui doivent nous donner nos droits sont énormes.
Aujourd'hui, 91% des stations de métro ne sont pas accessibles aux personnes ayant un handicap moteur.
On est handicapé parce qu'on est empêché d'avoir une vie pleine, entière, citoyenne, affective, relationnelle, dans un contexte donné. Si tout était beaucoup plus accessible aux personnes à mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite seraient moins handicapées. C'est pour ça qu'on interpelle beaucoup les députés de gauche, non pas parce qu'ils sont les pires, mais parce qu'ils sont notre seul espoir. Ils ont le logiciel de solidarité et de valeur à l'intérieur d'eux, leur permettant, s'ils prennent le temps d'écouter et de se concentrer un peu sur ce qu'on dit, d'accéder à notre position d'inquiétude sur une société qui se débarrasserait des vulnérables.
C'est intéressant d'avoir ces mouvements-là, parce qu'ils te réveillent un peu, ils te disent « nous, on peut aussi porter un discours autre ».
Et du coup, si on s'intéresse un petit peu aux autres villes, aux autres pays, enfin dans le monde, ça se passe comment ?
En France, il y avait du retard, mais il y a quand même des villes comme Grenoble, qui est dans le top du classement en France. Déjà en 2013, elle a été classée comme première ville française la plus accessible. Parmi les diverses mesures, on peut citer qu'elle soutient les commerçants pour la réalisation de travaux de mise en accessibilité de leur commerce. Elle a aussi un service d'information en langue des signes français.
Et du coup, si on dézoome et qu'on regarde l'Europe
La médaille, ça nous a surpris que la médaille revenait à Varsovie, la capitale de la Pologne. Et Varsovie a fait des gros efforts pour améliorer son accessibilité. Elle a consulté directement les personnes concernées aux besoins particuliers en matière d'accessibilité.
Par contre, pour le number one mondial, j'étais un peu moins surprise.
Alors, roulement de tambour, Singapour.
Et comment on explique ça?
Concrètement, tous les trains, tous les métros, toutes les gares sont accessibles aux personnes ayant un handicap moteur, sensoriel, aux familles nombreuses avec poussette. 95% des routes piétonnes, des taxis et des stations de bus sont accessibles. À Singapour, il y a aussi des rampes, des ascenseurs, des toilettes spécifiques, des portiques larges. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils n'ont pas négligé des choses auxquelles on ne pense pas quand on ne vit pas ces réalités.
Comme quoi?
Par exemple, les personnes malvoyantes ont toutes les informations avec des écritures en braille et des bandes pododactyles. Pour les personnes sourdes, les destinations et le temps d'arrivée sont affichés sur les écrans et les portes des métros ont des lumières rouges pour indiquer que les portes se ferment. Et n'oubliez pas les loisirs, les théâtres, les musées, les jardins, les équipements sportifs sont également accessibles à tous et aménagés pour le handisport.
Waouh! Respect, hein. Bon, c'est dommage que ça soit pas partout comme ça. Hein. Mais finalement, est-ce que le handicap, il ne serait pas directement provoqué par un environnement inadapté?
En effet, je pense qu'il est d'abord important de rappeler que le handicap, c'est pas une caractéristique individuelle des personnes concernées. Il est provoqué par un environnement inadapté.
D'ailleurs, l'accessibilité en ville, c'est aussi rendre la ville plus praticable pour d'autres, comme les femmes enceintes, les familles avec des poussettes, oui. Les personnes âgées, ou encore les personnes qui voyagent et transportent de grosses valises. Et pour mettre ça en valeur, on a fait un reportage directement sur le terrain, au cœur du centre-ville aixois.
C'était un reportage pour y constater les contraintes, les éléments négatifs qui peuvent se présenter dans l'espace public, mais aussi des points positifs, parce qu'il y en a certains à noter quand même.
Sur ce, on vous lance le reportage.
Let's go.
Alors Seb, pour la première étape de notre parcours, nous voici à la rue de la Couronne. Tu me l'as présentée comme une des rues compliquées d'Aix lorsque l'on se déplace en fauteuil roulant électrique. Quelles sont les difficultés que tu rencontres ?
Pour moi, la rue de la Couronne, elle est compliquée. Une rue réputée pour ses fast-food. La plupart sont inaccessibles. Après, les soucis qu'on voit, c'est aussi le fait que les trottoirs sont assez hauts.
Oui, là, on est passé. Donc, tu roulais sur la route, en plein milieu. Il y avait un passage pour accéder au trottoir. Mais après, pour rentrer dans les magasins, à chaque fois, il y avait des marches.
C'est vrai que je me déplace sur la route. Mais après, ensuite, oui, je pense qu'il y a plus de 90% des magasins inaccessibles. C'est aussi le souci du sol pavé qu'on va ensuite voir à la rue aux Monnevieilles.
Allons-y.
Allez, let's go.
Et les pavés commencent.
Voilà, et c'est tout au long de la rue, malheureusement.
Pour le fauteuil, c'est assez compliqué. Pour les roues et pour toi, niveau ressenti, c'est comment?
On peut dire ça secoue. Hein. Non, mais après, c'est pas très confortable et c'est compliqué aussi de se déplacer. Moi, je suis en fauteuil électrique, mais je pense que pour des personnes qui sont en fauteuil roulant manuel, mais aussi des personnes qui sont malvoyantes, tu peux tomber sur un mauvais pavé, une mauvaise marche, des motos qui descendent comme là. Et du coup, c'est assez contraignant pour beaucoup de gens et même... Je pense qu'à pied aussi c'est compliqué. Et oui. Tu vois, et même en
poussette. Je viens de tomber.
Elle est pas tombée, hein, mais c'est vrai que c'est un peu la complexité de la rue. T'en penses quoi, Gwen, du coup, de cette rue, même à pied?
À pied, je sais que les pavés, il y en a certains qui sont plus, on va dire, confortables que d'autres, et là, pas trop. Je suis toujours en chaussures plates, mais je me dis en talons aussi. Ça doit être.
Ça va être quelque chose.
Voilà. On continue ce périple. On arrive rue de la Verrerie qui est aussi tout aussi pavée finalement. Dans ces cas-là, tu fais comment? Tu passes quand même ou alors tu évites ces rues?
C'est des rues que j'évite, ouais.
Tu t'empêches d'aller dans la rue, qui est un espace public.
Ça pose la question, est-ce que l'espace public est adapté pour tout le monde en fait?
Et tu te sens comment? Tu te sens interdit, exclu?
Plus jeune, on peut se sentir un peu exclu quand même, parce que c'est une forme d'exclusion. En grandissant, on peut ressentir ça, mais après on essaie de le construire autrement. C'est aussi un environnement qu'il faut essayer d'adapter au mieux. Je me dis qu'il y a des solutions, mais qu'il faut les mettre en place et se donner les moyens.
Et quoi comme solution?
Peut-être aplanir un peu les sols, ou même des cheminements. Il faut essayer d'adapter au mieux, même si à l'aspect historique, on va voir ensuite rue des Cordeliers.
Et donc là, on prend une rue plutôt en descente. C'est plus facile la montée ou la descente pour toi?
On va dire plus facile la montée. La descente, c'est quand même plus dangereux, même pour freiner. Tu dois anticiper un certain creux, faire attention au caniveau.
Et dans ces cas-là, t'es coincé et quelqu'un doit t'aider ou tu peux t'en sortir tout seul?
Je peux m'en sortir en espérant ne pas trop glisser. Mais après, oui, je peux demander aussi aux gens.
Et quand tu demandes de l'aide dans la rue, les gens, ils sont plutôt réceptifs, ils acceptent?
Oui, dans l'ensemble, oui. Après, ça m'est arrivé 2-3 fois que les gens veuillent pas, mais sinon, dans l'ensemble, ils ont envie d'aider, quoi. C'est juste que des fois, ils savent pas comment faire, ils veulent bien faire, ils sont plutôt cool.
Les Aixois et les Aixoises, vous êtes sympas.
Oui. Quand t'arrives place des quarts d'heure, c'est encore d'autres pavés.
Des pavés qui sont plus petits, plus resserrés, plus comme une mosaïque. C'est plus facile ou plus compliqué pour toi?
C'est peut-être plus facile. Après, quand ces pavés-là sont sur toute la place, c'est pas plaisant. Il y a aussi d'autres contraintes. Là, tu peux voir qu'il y a des passe-câbles, restaurants, bars, pas tous accessibles. Ce que je peux dire, c'est aussi une disposition assez excluante de la place pour une place qui se veut festive. J'ai passé un mauvais quart d'heure, si je peux faire le jeu de mots.
Là, on arrive dans la rue Gaston de Saporta qui est un peu plus animée. Il est 17h40. Tu peux me parler un peu de cette rue?
Et du coup, c'est la rue touristique d'Aix. Et il y a beaucoup de boutiques. Madeleine de Christophe, t'as les Chouquettes, Bébel, leur second magasin. En fait, t'avais un truc de pastel Nata, je voulais te faire goûter, mais bon, c'est fermé malheureusement. Mais à l'occasion.
Je connais.
Le sucre, en plus. Et après, t'as les Calissons. Bon, c'est une rue vraiment touristique ici. C'est une des rues où il y a du positif à tirer quand même. Que ce soit rien que pour l'accès des magasins, qui mettent en place des rampes manuelles. Un élément simple pour résoudre un peu cette exclusion en tout cas, de l'espace.
Ça a toujours été comme ça ou t'as vu une évolution depuis que tu es là?
Il y a une évolution quand même au fil des années, même s'il y a encore des efforts à faire. C'est une rue quand même qui est plutôt plaisante à prendre. C'est une ville qui se veut touristique, du coup elle a le but d'être accessible aussi.
Parce que pour les choses à faire, donc il y a la mairie qu'on peut consulter et les commerçants eux-mêmes.
C'est vrai que j'ai jamais vraiment osé. Même niveau de la mairie, c'est véritablement son rôle. Enfin, je peux être dans une commission et me rendre compte qu'il y a des choses aussi qui sont mises en place. Et que si on veut des choses, il faut aussi les demander, essayer de mener aussi ces projets-là avec les associations.
L'appréhension de l'espace, c'est vraiment un élément important, comme on peut le voir rue Pierre et Marie Curie, puisque sur une grande partie de la rue, aucun trottoir n'est totalement accessible, qui t'oblige à te déplacer presque constamment sur la route.
J'ai l'habitude d'aller sur la route quand c'est pas accessible, mais bon, c'est pas forcément normal d'être sur la route constamment.
Ce qui est le cas aussi de la rue Bédaride et de la rue Esparia, non ?
Voilà, c'est ça exactement, où c'est hyper pentueux.
Parce que là, on est dans le centre-ville de Aix, mais est-ce qu'aux alentours, c'est un peu mieux ou c'est pire?
Aux alentours, il y a des efforts qui sont faits, mais après, quand tu rentres, par exemple, au Château Bouffant, sur le pourtour, c'est bien fait, mais quand tu rentres vraiment dans le quartier même, c'est pas adapté comme il le faudrait, quoi.
Côté divertissement aussi, il y a un bar que t'aimes bien, c'est le bar des artistes. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Tout à fait, il est situé aux Salles Provençales. C'est un espace bien adapté où je t'avais proposé de faire notre rencontre pour le podcast. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, à chaque fois on arrive, ils ouvrent la porte en grand, on va à la même place que d'habitude, ils enlèvent la chaise, toujours un super accueil.
C'est ça, pour l'entrée des artistes.
Pour finir, on va parler des cinémas. Le cinéma Renoir, Mazarin et le cinéma Cézanne. Tu peux nous en parler ?
Tout à fait. Le Renoir est un des cinémas inaccessibles. Mazarin, les trois salles sont accessibles. Et après, le cinéma Cézanne, qui est en travaux maintenant, pour une durée de 2 ans. C'est une bonne nouvelle, mais bon, pendant toute ma jeunesse, il a été inaccessible. Que 3 salles sur 9 accessibles. Et encore une des 3 assez compliquée d'accès. Enfin, c'était pas forcément dans les normes, en fait.
On est devant le Renoir et on a dû traverser le cours Mirabeau pour venir. Ça s'est passé comment le trajet ?
Le cours Mirabeau, c'est assez sympa, même s'il y aurait des améliorations. Des gens qui me disent que des fois les trottoirs sont trop hauts pour des pavés, pas toujours sympa. Mais après, personnellement, c'est assez sympa à traverser.
Le cours Mirabeau.
Ouais, sympa.
Direction le Cézanne.
Allez, go.
Allez.
Jean-Daniel Humann, je suis responsable des cinémas aixois. Si vous me cherchez, je suis dans les cinémas aixois. Je suis pas loin.
Je me demandais, est-ce que depuis longtemps, le cinéma était accessible ?
Alors, le Mazarin est accessible, moi, depuis 25 ans, c'est sûr. Il y a très logiquement aussi des toilettes accessibles. Après, c'est vrai qu'au Renoir, vous n'avez aucune accessibilité. C'est des vieux bâtiments qui ont été construits il y a très longtemps et que, par exemple, le Cézanne qui est rénové.
Oui,
une de ses volontés premières, c'est l'accessibilité totale.
D'accord. C'est vrai que le cinéma, le Cézanne, 3 salles sur 9.
Exactement, 3, 4,
et même la 5e est assez compliquée pour entrer. Sur les autres handicaps, pour les personnes malvoyantes et aveugles, alors, je sais qu'il y a l'audio description.
Personnellement, j'avais créé l'année dernière, en partenariat uniquement avec une association, une séance dans laquelle en fait on diffuse l'audio description directement en salle. On l'avait ciblé pour que ce soit que pour l'association. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est toujours compliqué de faire des séances entre guillemets catégorisées, où c'est très très bien vu, où c'est très très mal vu. Parce que justement, il y a le côté aussi malheureux où on nous disait, ah, vous nous mettez dans une case. Je peux comprendre. Mais c'est pas une volonté de notre part, au contraire, c'est d'ouvrir nous ce qu'on veut faire. Par exemple, le mois prochain, on va l'ouvrir à tous. C'est une séance au Renoir tous les mercredis du mois. Ce sera à 5 euros et qui sera accessible aussi aux abonnés. Ce sera une séance où vous pouvez oublier tout appareil, vous regardez un film comme tout le monde, entre guillemets. Aussi au Mazarin, on fait toute une accessibilité pour les enfants qui viennent de l'hôpital de Provence. Là, c'est pareil, on donne une accessibilité avec un prix très 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 bas parce que c'est des familles qui sont la plupart du temps malheureusement aussi en difficulté. On essaie de pallier à tout ce qu'on a comme architecture qui nous empêche de proposer plus en fait. Après, oui, je ne vais pas vous mentir, on essaie de faire au maximum, mais tout n'est pas possible.
C'est vrai que moi, plus jeune, personnellement, c'était assez excluant pour voir Intouchable. Le paradoxe, j'ai dû attendre un mois pour le voir.
Ah, mais totalement.
Encore du travail à faire. faire, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont mises en place.
Et c'est pareil pour un petit truc en plus. On a fait un parti pris de ne jamais le diffuser en une et de se dire bah c'est pas grave, on va perdre du public, mais au moins il sera totalement accessible tout pendant toute l'exploitation. Des fois vous avez des pressions de distributeurs ou autres, et puis même il y a des enjeux financiers malgré tout, hein. Faut pas se mentir là-dessus. Mais en tout cas, ça fait 25 ans que je travaille ici, j'ai pris tous les niveaux ici et franchement, je peux vous garantir qu'il y a toujours une vraie volonté. C'est jamais suffisant, ça
oui,
je suis d'accord.
On vous remercie.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Vraiment. Merci.
Alors Gwen, quels sont les retours que tu as suite à cet après-midi reportage?
Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, c'est vrai que je pense qu'en tant que personne valide, je ne me rends pas compte de comment ça peut être difficile de se déplacer dans la rue. Côté pavé, je le connais. Enfin, je connais le côté chiant quand mes copines elles sont en talons et qu'elles galèrent un peu. Mais sinon, c'est vrai que oui, les trottoirs, ils me paraissent pas si étroits que ça des fois. Mais en fait, s'il y a deux fauteuils qui se croisaient, ça serait encore plus compliqué. Oui. Quand même, les gens avaient l'air quand même bienveillants, les voitures ralentissaient quand même.
Et il y avait d'autres éléments qui t'interrogeaient, autres que les pavés ou...
Que les gens ils soulignent comme enjeu, c'est la question peut-être du patrimoine historique, de la culture
oui.
et tout.
Oui, c'est vrai que l'aspect historique est important, et ça, il ne faut pas le renier, mais on peut trouver aussi des combinaisons, je pense, entre historique et accessibilité. L'un n'empêche pas l'autre, quoi.
Et toi, en point positif, t'as pensé quoi ?
Pour moi, la rue Gaston de Saporta. Vers le haut, ça peut être un peu compliqué, mais en descendant au fur et à mesure, je me rends compte quand même qu'il y a des systèmes de rampes manuelles qui sont mises. Là, j'ai appris que certains magasins ont fait des rampes aussi fixes, et du coup, ça permet une meilleure accessibilité dans les magasins. Ça, je trouve ça, il faut quand même le relever. Et après, le sol, en fait, qui commence vers le bas, être plus plat, même si, voilà, il faut faire quand même gaffe aux gouttières. Et c'est vrai que moi, je trouve que quand même, on peut relever des efforts aussi. Voilà, je veux pas non plus être dans un côté négatif. Il faut le dire, il faut le constater parce qu'il y a des choses à améliorer. Mais voilà, pour moi, c'est une des rues qui est positive et c'est aussi la compréhension des gens qui font attention quand même. Voilà, la plupart du temps, les gens sont quand même assez corrects. S'ils te voient en difficulté, ils viennent t'aider. Voilà, il faut pas sombrer que dans un côté mauvais, entre guillemets, quoi.
Accès validé.
Face à ces problématiques, on peut en discuter. On peut se dire qu'on peut interpeller aussi des décideurs. Et moi, pendant longtemps, j'ai aussi délaissé ça. Et je me dis aussi que on peut aussi interpeller la mairie, demander des choses. Et ça, c'est un droit aussi, quoi.
Pourquoi tu délaissais ça?
En fait, je pensais pas, j'imaginais pas le poids, en fait, que pouvait avoir un maire. Je me disais, oui, c'est un maire, mais il était pour moi presque représentatif, alors que non, il peut développer des projets. On peut arriver avec plusieurs associations, porter quelque chose. Et je pense, ça peut être aussi accompagné, quoi. Il faut pas se limiter, je pense. Et là, c'est vraiment des réels, qui peuvent être des décideurs, en fait. Du coup, faut aller vers eux, quoi. Voilà. Moi, je participe aussi à une commission sur l'accessibilité. Et du coup, je me suis rendu compte de ces liens-là, en fait, qui est organisé par la mairie, qui est mise en place. Voilà, même si elle n'est pas décisionnaire, qu'elle est juste consultative, on peut se rendre compte qu'il y a des moyens, des certains leviers en fait à notre niveau. Mais
et pour voilà. Faire partie de cette commission, comment pour rejoindre, choper les infos?
Moi, ça a été fait plutôt par le milieu associatif, mais je sais que pour être informé, c'est peut-être via les associations qui y participent. On arrive déjà à la fin. Pour finir notre épisode, on passe à l'instant musical avec une proposition de Gwen.
Alors, je vous propose d'écouter, dans mon meilleur anglais, Talking Loud du collectif britannique Incognito.
Of all mankind, turning straight for the chaser.
C'était Talking Loud du groupe Incognito. Ça va, j'espère que je l'ai bien dit.
Tu l'as très bien dit.
Ah, ça va.
Et donc voilà, Accès Validé vous dit à très très vite pour un nouveau sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours.
Que ce soit sur des sujets, des associations, comme on a pu le dire, des événements aussi, quand vous voulez qu'on parle, ben, ça serait avec grand plaisir.
Sur ce, bonne semaine Seb, et bonne semaine à vous les auditeurs.
À plus.